Bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi 14 septembre 2022. On continue donc l'étude que nous avons débutée hier. Comme on l'annonçait, c'est une série d'environ 26 leçons, donc environ 6 semaines, peut-être un peu plus, de leçons basées sur le chapitre 11 du livre aux Hébreux. Et puis donc, on va y aller graduellement. C'est une étude que j'ai eu l'occasion d'apporter en 2018, que je modifie et que j'adapte aux circonstances d'aujourd'hui. Mais donc une étude sur laquelle j'avais penché en 2018, qui s'intitulait à l'époque « Ce qu'ils ont compris que nous n'avons pas compris ». Ou ce qu'ils avaient saisi que nous n'avons pas compris. Aujourd'hui, on le remet tout simplement avec le vocable qui revient régulièrement dans cette série de versets, cette série de personnages, c'est par la foi. Donc, on a senti en tant que collège pastoral, de façon individuelle, on a vu le Seigneur intervenir ainsi et nous pousser dans l'étude de la foi pour la congrégation, tant pour le pasteur Sergio que le pasteur André, donc ceux qui sont les principaux prédicateurs au niveau de l'Église. Donc, on suit simplement ce que le Seigneur nous donne. Alors, on va prier et après ça, donc, nous débutons notre étude pour ce matin. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. On te remercie pour cette autre occasion que nous avons de plonger nos regards dans ta parole et d'être rassasiés, nourris, abreuvés et surtout transformés par cette parole. Nous prions que celle-ci puisse être reçue comme étant la parfaite et pleine vérité qui émane de ton trône de grâce envers nous et que celle-ci, Seigneur, trouve un terrain propice afin qu'elle puisse s'implanter profondément, qu'elle puisse s'enraciner, que, arrosée par l'onction de ton esprit, elle puisse croître et porter un fruit qui te sera agréable, tant dans notre vie que lorsque nous passerons dans l'éternité. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère ce matin, que ta grâce nous soit accordée, que ta compréhension, que ta sagesse, que ton intelligence et ta connaissance nous soient accordées alors que nous nous arrêtons ce matin pour ce moment d'intercession et ce moment d'apprentissage. Bénis-nous tous, visite-nous, dis-nous ce que nous avons besoin d'entendre et répands sur nous ta pleine bénédiction, celle que tu as préparée de toute éternité pour cette journée. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à tous à cette étude et je vais lire pour vous le verset qui nous sert de réflexion ce matin. On va commencer tout simplement par les deux premiers versets, mais c'est le verset 3 qui nous servira donc de base pour l'étude du jour. Hébreux 11, le verset 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Et le verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Je répète le verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Et je prends l'occasion pour lire aussi dans une autre version. C'est dans un français qu'on appelle fondamental, donc un français très allégé. Et le verset 3 nous dirait dans ce contexte, « Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. » Je répète une dernière fois, nous croyons en Dieu. Alors, nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Aujourd'hui, et ce n'est pas une erreur, C'est simplement pour comprendre le contexte du livre aux Hébreux. J'aimerais faire une petite introduction à ce livre et après ça, on reviendra de façon succincte à l'étude du jour sur la foi dans la création ou notre approche à la création divine à travers notre foi. Introduction donc à l'épître aux Hébreux. La lettre, on ne sait pas de qui elle a été écrite puisqu'elle n'est pas nommée. Comme je disais hier, la plupart des experts, la plupart des chercheurs bibliques sont d'avis que la lettre aurait été écrite par l'apôtre Paul. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est difficile à justifier ou à assurer. Chose certaine, c'est qu'elle a été écrite à un groupe de chrétiens qui habitent Rome et qui sont juifs d'origine. En fait, c'est un auditoire de jeunes convertis juifs qui, bien qu'ils ont reconnu Jésus comme Messie, courent le risque de retourner au judaïsme parce que encore trop peu enracinés dans la foi chrétienne. Donc, ce sont de jeunes convertis d'origine juive dont la foi est actuellement un peu ballottée par les circonstances, ballottée au niveau des croyances nouvelles qui viennent les fortifier et viennent en même temps les ébranler, parce que la foi chrétienne n'est pas la foi judaïque en soi. Il y a bien des nouveautés qui arrivent, soit tout simplement avec l'annonce du Messie en la personne de Jésus-Christ. Donc quand tout va bien, leur foi, ces jeunes convertis, est assez forte, mais quand les choses commencent à aller moins bien, la tribulation notamment, et lorsqu'on regarde le livre aux Hébreux, et lorsqu'on regarde un peu plus loin ce chapitre 11 du livre des Hébreux, et quand on regarde même le chapitre 10, on se rend compte que malgré la jeunesse, malgré la nouveauté de leur foi, ils sont quand même soumis à une tribulation assez âpre. Donc, l'apôtre qui écrit ce livre va vouloir fortifier leur foi. L'épître a une approche qui sera compatible avec deux groupes de personnes, avec deux grandes pensées. La pensée philosophique grecque de l'époque, on sait que oui, on est sous l'Empire romain, mais que la Grèce, qui a été le grand empire précédent, a influencé son époque et ce monde contemporain, à travers sa philosophie, à travers sa sagesse, à travers sa méthodologie de pensée. Alors lorsqu'on va regarder le livre aux Hébreux, on va voir ces deux approches. Celle propre donc à la philosophie grecque, à l'approche intellectuelle grecque, et de surcroît à cela, celle qui est proche, qui est attachée donc à la croyance hébraïque de l'époque, à la croyance judaïque de l'époque. Deux points importants. Les Grecs à l'époque croyaient que tout sur terre n'était que le présage de la réalité et de la vérité. Comme quoi, ce qui se passe sur terre était pour annoncer ce qu'était la réalité et ce qu'était la vérité. Dans ce livre aux Hébreux, on va présenter Jésus comme étant la vérité seule et unique. Donc pour ceux qui analysaient les choses à la façon grecque, la présentation de Jésus comme étant l'absolue vérité venait donc les chercher. De surcroît, pour ceux qui étaient un peu plus hébraïques, judaïques dans leur approche, pour eux, il était inapte d'approcher Dieu depuis le péché originel. Donc ceux qui étaient hébreux savaient qu'ils n'avaient point de lien, de raccord ou de moyen d'approcher Dieu à cause du péché originel. Depuis Adam et Ève, l'homme était dans cette quête de trouver un moyen de s'approcher de Dieu. Le livre aux Hébreux va présenter à ces jeunes croyants juifs le moyen d'approcher Dieu à travers Jésus comme seul et unique point d'accès vers Dieu. Donc les deux grandes philosophies, les deux grandes pensées, les deux grandes méthodologies intellectuelles de l'époque vont être abordées, vont être abordées adéquatement pour que ces jeunes juifs, donc hébraïques de foi, mais étant influencés par la pensée grecque, puissent trouver leur compte dans cette étude. Voici un peu comment est réparti le verset, l'ensemble du livre aux Hébreux. Je vais rapidement, vous pourrez toujours prendre des notes tout à l'heure en réécoutant cet enseignement. Le chapitre 1 va nous dire comment nous approcher de Dieu. Le chapitre 2 va nous parler de le chapitre 2 et le chapitre 3 vont nous parler de l'humanité de Christ, donc Dieu qui s'est fait homme. Le chapitre 4 va nous montrer que Christ est supérieur à Moïse. Et dans la pensée hébraïque, c'était un point qui était quand même important, puisque Moïse était le père de la nation, le père de la foi judaïque, celui qui avait transmis donc la loi et puis toutes les pensées du Pentateuque qui menait le peuple juif. Le chapitre 5 va nous parler du repos de Dieu, donc du repos que nous pouvons obtenir, le shalom que nous pouvons obtenir en Dieu. Le chapitre 6 va nous parler du sacerdoce. Le chapitre 7 va nous avertir contre la paresse. Et pour de jeunes convertis, c'était une chose importante, leur dire que l'oisiveté était dangereuse et qu'il nous fallait être mobilisés dans cette mission, dans cet envoi que Jésus avait fait auprès de ses disciples en disant « Allez par toute la terre, faites de toutes les nations » des disciples. Le chapitre 8 va nous parler de la nouvelle alliance à travers la mort et la résurrection de Jésus. Le chapitre 9 va faire le comparatif entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le chapitre 10 va nous parler de la foi qu'on doit avoir envers le sacrifice parfait de Christ. Le chapitre 11 nous parle de ces héros de la foi, donc pour ces judaïques ou ces jeunes croyants d'origine hébraïque, c'était important de savoir que ce qui les avait précédés les amenait à cette époque-ci et c'était encore valide, valable et propice à l'enseignement. Donc ces hauts personnages qui avaient meublé toute leur vie jusqu'à ce qu'ils rencontrent Christ étaient encore aujourd'hui une source d'enseignement et d'apprentissage. Le chapitre 12 va nous parler de la résilience du croyant, notamment à travers la persécution. Va nous parler aussi que même si les choses tardent, même si les choses prennent du temps, même si les choses sont difficiles, si l'atmosphère ou le contexte se complexifie, il nous faut persévérer et ne point se relâcher. Et le chapitre 13 va donc avoir différentes applications des vérités spirituelles. Comment prendre un concept spirituel et l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et nous revenons donc maintenant au verset 3. Et je le répète, parce que ça fait quelques minutes qu'on a quitté ce verset, je le répète pour vous. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qui est intéressant avec ce chapitre 11 d'Hébreux, c'est qu'on couvre l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Depuis la création, donc la Genèse, jusqu'à l'époque de la persécution contemporaine pour l'auteur du livre aux Hébreux ou pour ses lecteurs de l'époque, mais contemporaine pour nous aussi, puisque ce combat pour la foi, cette persécution des chrétiens continue encore aujourd'hui, pour que nous-mêmes en tant que croyants puissions faire preuve de résilience, même dans nos moments plus compliqués. Le verset commence en disant « Par la foi, nous reconnaissons. Par la foi, nous reconnaissons. » Il est en train de dire donc « Voici ce que je vous enseigne. Le monde a été créé par Dieu. Pour le jeune juif, ça voulait dire que l'enseignement qu'il avait reçu concernant la création de l'univers était encore approprié, que ça ne changeait pas, que c'était effectivement Dieu qui avait créé l'ensemble de l'univers. Et c'est à la base de la croyance chrétienne. Tu ne peux pas te dire chrétien et avoir des interrogations sur la création du monde entier. Tu ne peux pas croire que Jésus est effectivement Dieu fait homme, mort et ressuscité par la toute-puissance de Dieu pour le salut du pécheur repentant. Tu ne peux pas croire cela si à la base, tu ne crois pas non plus que Dieu avait effectivement toute la puissance pour créer l'univers. Lorsque nous disons que par la foi, nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, ça veut donc dire que j'accepte et j'adhère au fait que Dieu, que ce que Dieu dit est la complète vérité. La Bible nous dit, voici comment Dieu a créé le monde. Si effectivement, ce livre qu'est la Bible, ce livre qu'est la parole de Dieu, est vérité absolue, ça veut donc dire que l'ensemble du livre est parfaitement véridique, véritable et vrai. Ça veut donc dire que le récit de la création ne peut pas être exclu de cette croyance, de cette foi. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que le monde a été créé tel que la Bible nous l'enseigne en 6 jours par la toute-puissance créatrice de Dieu. Alors, lorsque le jeune croyant arrivait, un des premiers pas, c'était effectivement de confesser que le monde avait été créé par la toute-puissance de Dieu. J'accepte et j'adhère au fait que ce que Dieu dit, c'est la complète vérité. Je ne peux pas dire que la Bible est vraie si j'en exclus certaines parties. Je ne peux pas dire que la Bible est fiable si j'en exclus certaines parties. Si je dis ceci, oui, ça vient de Dieu, mais cela, ça ne vient pas de Dieu. Alors à ce moment-là, toutes les parties peuvent avoir un grand point d'interrogation dessus. Si je crois que Dieu a créé effectivement le monde, tel qu'il nous le relate dans les premiers chapitres de Genèse, ça veut donc dire que je peux croire aussi l'ensemble du parcours biblique, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La foi du croyant est basée sur cette parole de Dieu. Je dois donc croire qu'elle est complète, qu'elle est véritable et qu'elle est parfaite. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ici, le deuxième point, c'est que j'accepte et j'adhère au fait que le monde a été créé car Dieu l'a voulu. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Une parole n'est pas prononcée sans la volonté de la personne. Même lorsqu'on dit qu'une parole nous a échappé, elle reste que le fait d'émettre cette parole, le fait de prononcer cette parole a été un choix, a été une décision. J'ai décidé de m'exprimer. Il n'y a pas un son qui sort de ma bouche si mon cerveau n'a pas donné cet ordre à ma bouche de prononcer tel son et non pas tel autre. Si je reste muet, c'est que mon cerveau a dit à ma langue, à mes lèvres, à ma bouche, à mes cordes vocales, de se taire. Lorsque l'on dit que le monde a été créé par la parole de Dieu, c'est donc que Dieu a décidé d'émettre cette parole créatrice de l'univers. J'accepte et j'adhère donc au fait que le monde a été créé car Dieu l'a voulu. Si le monde a été créé car Dieu l'a voulu, ça veut donc dire que les habitants de cette terre ont été créés car Dieu l'a aussi voulu. Ça veut donc dire que la vie de tous ceux qui occupent une place sur cette terre a été créée parce que c'était la volonté de Dieu. Et pour le croyant, c'est important d'arriver à cette conclusion, de comprendre que je ne suis pas le fruit du hasard, je suis le fruit de la volonté de Dieu. Que ce soit une naissance, une grossesse qui était voulue, que ce soit une grossesse qui était non désirée de la part des géniteurs. Il reste que un être humain qui vient au monde est une création désirée, voulue de Dieu. Et par conséquent, toi qui m'écoutes ce matin, tu dois avoir cette assurance que Dieu avait donc ce désir que tu naisses, ce désir que tu croisses, ce désir que tu puisses venir à sa rencontre et ce désir que tu accomplisses sa volonté à travers ton existence. Donc j'accepte et j'adhère au fait que le monde a été créé car Dieu l'a voulu. J'accepte et j'adhère aussi au fait que le monde a été créé comme Dieu l'a initialement voulu. On sait que le péché originel d'Adam et Ève a changé le cours de l'histoire de l'humanité. On ne sait pas combien de temps s'est passé entre les 6 jours de création et puis le péché originel. Est-ce qu'on parle de quelques jours? Est-ce qu'on parle de quelques mois? Est-ce qu'on parle de quelques années? Est-ce qu'on parle de quelques millénaires? On ne le sait pas. Dans ce temps-là, on vivait dans une période donc qui n'est pas marquée par le temps. Les choses ont été marquées par la suite, suite au péché originel d'Adam et de Ève. Mais lorsque le monde a été créé, il a été créé parfait. Il a été créé, et je rajouterai, c'est redondant, mais vous me le permettrez, il a été créé parfaitement parfait. Dieu, dans sa volonté, n'a pas créé un monde imparfait, incomplet. Il a créé un monde parfait. Ce que nous connaissions avant le péché originel était la perfection même de la création de Dieu, qui a été entachée, qui a été modifiée par le cours pécheur de la vie de l'être humain. Donc j'accepte et j'adhère au fait que le monde a été créé comme Dieu l'a initialement voulu. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. N'a pas été fait de choses visibles. Le quatrième ou le cinquième point, plutôt, concernant la création et l'importance de la foi dans le récit biblique de la création, c'est d'accepter et d'adhérer au fait que Dieu avait toute la puissance pour créer là où rien n'existait. Dieu avait toute la puissance pour créer là où rien n'existait. Le récit de la création biblique, c'est que sur la simple volonté et la simple proclamation de l'ordre divin, le monde a été créé. Pour le croyant, c'est encore important pour nous aujourd'hui. Ça veut donc dire que Dieu n'a pas besoin d'un contexte préalable pour que sa volonté s'accomplisse. Dieu n'a pas besoin d'attributs préalables, de choses coexistantes préalables pour créer quelque chose à la base de ce qui existait précédemment. Dieu peut créer de façon instantanée encore aujourd'hui. Dans tes situations et dans mes situations, ça veut donc dire que Dieu est capable, encore aujourd'hui, d'opérer avec sa toute-puissance et de créer même là où les choses n'existent pas. Et enfin, lorsqu'on parle que les choses ont été créées par ceux qui n'existaient pas ou par des choses qui n'étaient pas visibles, j'accepte et j'adhère au fait que Dieu a tout créé jusqu'à la précision millimétrique de tout ce qui existe. Non seulement tout ce qu'il a fait était parfait, tout ce qu'il a fait était dans sa parfaite volonté, mais sa parfaite volonté, c'est tant ce qui est immensément grand comme l'univers que ce qui est infiniment petit comme les plus petites particules de ce qui constitue mon corps. Dieu n'a rien laissé au hasard. Il a tout formé avec la précision d'un savant architecte, d'un savant potier. Et il est plus qu'un savant potier, en fait. Il est même celui qui a créé ce qui permet de faire de l'argile et qui permet de faire un vase. Le potier ne prend que ce qui existe. Notre Seigneur a créé l'argile, l'eau, pour l'hydrater et il a façonné toute chose dans la perfection même du millimètre, comme dans la perfection de l'infiniment grand. Alors, cinq choses auxquelles j'adhère lorsque je crois à la création biblique et lorsque par la foi j'adhère à la création biblique. Et on rappelle, hier, on a parlé de la foi comme une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc, une ferme assurance de la puissance de Dieu que nous n'avons pas vue à l'action, mais que nous croyons dans le récit biblique de la création. Lorsque j'ai cette foi en la création de l'univers par le pouvoir magistral de Dieu, j'accepte et j'adhère au fait que Dieu dit, ou que ce que Dieu dit est la complète vérité. Donc, j'adhère au récit biblique. J'accepte et j'adhère au fait que le monde a été créé car Dieu l'a voulu. Le monde n'a pas été créé par accident. Il a été créé parce que Dieu voulait. J'accepte et j'adhère au fait que le monde a été créé comme Dieu l'a initialement voulu. Le monde a été créé dans sa perfection, mais cette perfection a été entachée, a été amoindrie en raison du péché de l'être humain qui habite cette terre. J'accepte et j'adhère au fait que Dieu avait toute la puissance pour créer là où rien n'existait. Et enfin, j'accepte et j'adhère au fait que Dieu a tout créé, jusque dans la précision millimétrique de tout ce qui existe. En croyant à la création telle que la Bible enseigne, voici cinq points importants. Je crois alors à toute la suite de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si je crois effectivement que Dieu a créé la terre, je crois tout le récit qui s'ensuit. Deuxièmement, je crois alors que Dieu est tout-puissant. Ça ne peut pas être un Dieu impuissant ou un Dieu moyennement puissant ou un Dieu presque tout-puissant qui a créé tout cela. Je dois croire effectivement que Dieu est tout-puissant. Je crois aussi que ce que Dieu fait est parfait. Le monde aujourd'hui, avec ses défauts, avec ses défaillances, avec ses lacunes, n'est pas faute de Dieu, mais faute du péché de l'humanité. Ce que Dieu fait, à l'origine, était parfait. L'homme l'a entaché. Je crois aussi que rien n'est impossible à Dieu. Si je crois au récit biblique de la création, j'approche Dieu avec cette croyance, avec cette assurance que rien ne lui est impossible. Et enfin, je crois que Dieu ne peut pas être contesté. Je crois que Dieu ne peut pas être remis en question. Si je crois effectivement qu'il est l'être tout-puissant qui a créé tout ce qui existe, qui peut donc contester avec lui? Cette croyance toute simple, que diront certains, voire simplette, que critiqueront certains, cette croyance simplette et simple est importante et primordiale dans la suite de ton approche de la foi chrétienne. Si tu ne crois pas que Dieu était capable de faire ce que la Bible mentionne, ça veut donc dire qu'il y a d'autres histoires bibliques, qu'il y a d'autres points bibliques, qu'il y a d'autres mentions dans la parole de Dieu qui pourraient être fausses. Tu ne peux avoir foi dans la parole de Dieu que si tu crois en tout. Et ici, l'auteur aux Hébreux va dire aux jeunes croyants hébraïques, regardez, vous ne pouvez pas être influencé par la philosophie contemporaine, par la science contemporaine qui viendrait contredire le récit biblique, puisque rien ne peut être prouvé tant bibliquement, tant scientifiquement sur comment les choses ont été créées. Que ce soit le Big Bang ou autre, ça prend de la foi pour croire que le Big Bang a effectivement existé, tel que certains scientifiques veulent le dire. Quand on parle du récit évolutionniste, personne n'a vu cette évolution. Ça prend donc de la foi pour croire en cette évolution. Moi, je décide que ma foi est axée et basée sur le récit biblique. tout croyant chrétien doit accepter l'entièreté de la parole de Dieu depuis ses premiers récits de la création qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre capacité intellectuelle, qui dépassent notre capacité d'expliquer les choses. Nous l'acceptons tout simplement par la foi. Si je suis capable d'accepter le récit biblique de la création de l'humanité, je serai à ce moment-là en voie d'accepter aussi l'entièreté de la parole de Dieu. C'est comme si l'auteur disait « Voici le point le plus important, le plus difficile pour initier le cheminement. Si tu passes par ce point-là, à ce moment-là, tout le restant des choses seront plus simples. » Pour toi et pour moi, le questionnement surgit ce matin. Quel est mon positionnement par rapport à la création de l'univers? Si Dieu n'a pas créé l'univers, à ce moment-là, le récit biblique, je ne peux pas y adhérer. Si toutefois je crois que Dieu a été capable de créer l'univers tel qu'il nous est relaté, notamment dans le livre de la Genèse, à ce moment-là, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui poursuit, tout ce qui vient par la suite, je peux y adhérer. Quelle est ta foi? Quelle est ton adhésion à la question de la création? Je répète le verset. C'est par la foi que nous reconnaissons. Ça veut dire que nous arrêtons une position qui dit « Voici ce que je reconnais comme étant vrai. » Je reconnais que le récit biblique de la création est véridique. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Si tu veux être capable de croire que Dieu est capable de tout faire, tu dois à la base croire effectivement que Dieu a été capable de tout faire lors de la création de l'univers. S'il n'en a pas été capable, ben il se pourrait à ce moment-là que le Dieu que tu professes ne soit pas plus capable de créer, d'intervenir, d'agir. Alors, regardons notre foi ce matin. Regardons notre position par rapport au récit biblique. Est-ce que je crois effectivement dans cette parole? Est-ce que je crois qu'elle est parfaite, totalement vérité, parfaitement vérité et encore véridique aujourd'hui? Ma foi débute, prend sa base sur cela. Si à la base, Dieu n'a pas fait ce qu'il dit qu'il a fait, à ce moment-là, je ne peux pas croire au restant des Écritures. Ceux qui se débattent avec leur foi aujourd'hui, peut-être que c'est la question à se poser ce matin. Où en suis-je concernant la création? Est-ce que je crois, oui ou non, que Dieu était capable? Si j'ai cru qu'il a été capable, il est donc encore capable aujourd'hui d'intervenir dans mes situations. Prions. Seigneur, tu nous ramènes à la base. Parfois, on regarde la Bible comme une philosophie, un mode de vie, comme des conseils pour mener une vie bonne, agréable, ici-bas sur terre. Alors que l'objectif est bien plus loin que ça, bien plus profond que ça. L'objectif est d'être en communion avec toi, d'être attaché à toi, et cette communion et cet attachement ne peut pas exister à moins que je ne croie tout ce qui a été dit à ton sujet, à moins que je ne croie tout ce que ta parole relate à ton sujet. Seigneur, aujourd'hui, oui, moi je crois que c'est par la puissance de ta parole que le monde a été créé tel qu'il a été créé. Voulu, désiré, pensé par toi et non par la sagesse humaine, et non par le fruit du hasard, et non par le fruit des circonstances. Assurément, il y a une explication scientifique qui pourrait être donnée sur le processus, sur ce que tu as fait, mais même là, la science tarirait en ce qui expliquerait comment, d'un rien, de l'inexistence totale et du vide, par la simple puissance de ta parole, les choses se sont mises à exister. Seigneur, je crois que tu es ce genre de Dieu. Je crois que tu es ce Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre qui peut faire exister là où rien n'existe. Alors Seigneur, si je suis capable de croire que tu as créé l'univers alors que rien n'existait, à combien plus forte raison peux-tu créer des choses dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur? Peux-tu intervenir même lorsque pour nous c'est le néant, même lorsqu'on pense que tout s'est évaporé, même lorsqu'on pense que tout a disparu? Tu es encore capable aujourd'hui, sur une simple parole qui sort de ta bouche, de créer ce qui n'existe pas. Alors merci Seigneur de fortifier notre foi. Merci Seigneur de fortifier notre croyance en toi. Et merci de nous ramener à la base même de la foi chrétienne. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Rien n'existe qui ne soit sans que tu l'aies désiré, voulu et décidé. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère qui existe par ton parfait et saint plan. Alors je prie, Seigneur, pour leur vie, pour ma vie, pour nos vies respectives, que nous puissions accomplir ta parfaite volonté, parce que nos vies sont le fruit de ta parole, le fruit de ton désir de nous voir exister, afin de remplir un mandat tout particulier, propre à chacun d'entre nous. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère aujourd'hui, et en toute chose, que ton nom soit élevé. Nous t'avons prié effectivement dans ce précieux, glorieux nom du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve donc demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Et on ira donc avec le verset 4 demain. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Merci encore d'être si nombreux à vous joindre à nous matin après matin et puis même à nous regarder en différé. Si vous nous regardez en différé, n'oubliez pas de mettre un petit mot, une petite note, juste pour nous rappeler que vous étiez là. Et ça fait toujours plaisir de recevoir donc un petit message qui dit que vous avez été béni par la parole. Alors que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. On se retrouve demain matin. Au revoir tout le monde.